Ce podcast est présenté par Mise au jeu.
Mise au jeu. Gages-tu ?
Ce podcast est présenté par la microbrasserie La Force du Malte, la bière du 12e joueur.
Peu importe c'est où. Peu importe où ça se joue, MLS, Ligue des champions, Euro, Mondial, on en parle tout le temps.
Dit comme ça, ça fait vraiment bien, mais en vérité, on parle surtout de l'impact.
Football Club, les pionniers du podcast soccer, c'est la référence soccer à Montréal. Tout simplement, les meilleurs. C'est le CAN Football Club. La poutine du soccer.
Bonjour, bonsoir et bon après-midi. Bienvenue à une nouvelle édition du Couscous Piri Piri, podcast CANFC, 100% foot, 100% CANFC. En ce beau dimanche 23 septembre, de journée de diffusion et d'enregistrement, se fait avec vous. Et comme d'habitude, je suis Couscous et le Piri Piri, c'est évidemment Nilton George. Salut Nilton!
Comment ça va, Sofiane?
Très bien, merci. Merci, Nilton. Toujours un plaisir de parler foot avec toi. Bienvenue à l'émission du CANFC où on parle de l'actualité après match et analyse de l'Impact de Montréal. L'Impact qui a fait match nul un partout au Stade Saputo contre le New York City FC. Si vous êtes là avec nous, vous êtes déjà abonné au réseau CAN Football Club Plus, le seul réseau podcast soccer au Québec, au Canada complet qui vous offre du football, du contenu à travers le continent et à travers la planète, et ça continue. Donc, sur votre plateforme de podcast préférée, les mots-clés pour nous trouver, CAN Football Club Plus. Donc, Nilton, l'Impact a fait match nul, un partout contre New York City FC. L'Impact a évité une défaite, ainsi que New York. L'Impact reste encore sixième avec 40 points, avec une avance de 5 points sur DC United, qui a 2 matchs en main, et le Revolution, qui a 1 match en main sur le bleu-blanc-noir. Ça commence à une petite pression sur l'Impact. Là, une victoire aurait un peu libéré le club, mais là, on sent une petite tension.
Mais tu sais, quand on regardait les matchs, là, il y a tout ça, disons, un mois, puis on voyait le calendrier des matchs à domicile. On l'avait dit, là, les matchs à domicile ne sont pas faciles. C'est des gros, c'était des gros morceaux, là, même si c'est à domicile. New York City, c'était un bon challenge là, pour Montréal. On l'a vu sur le terrain aussi. C'était pas évident. Là, on s'arrête peu. Montréal a bien joué, mais avec un peu plus d'efficacité. Pas d'efficacité, mais un peu plus de volonté en face. Là, New York aurait pu partir avec une victoire, puis ça aurait pas été un vol.
Non, c'est vrai. Puis en plus, comme tu avais dit avec Gonzo au 99, New York City FC est une très mauvaise séquence là, en termes de non-victoire. Donc le club gagne très peu, ou même pas du tout. Et malgré ça, on voit la qualité de l'équipe, avec des joueurs qu'on redécouvre un peu. Là. Il y a des joueurs que j'avais pas vraiment vu depuis longtemps du côté de New York, là, notamment le grand gaillard scandinave à la pointe qui a marqué, pas marqué le but. Là.
Maxime Morales, c'est tout un beau joueur. Ouais, Maxime Morales, c'est tout un joueur. Là. À chaque fois qu'on voit un milieu offensif, on est impressionné parce qu'on n'a pas l'équivalent à Montréal depuis toujours. Là.
Exactement.
Ça peut changer le cours d'un match. Là.
Non, exactement.
Un joueur de la sorte prend la baguette, là, puis il organise tout devant, c'est beau à voir. Là.
Un gars qui m'a impressionné beaucoup, qui a fait beaucoup en moins de 20 minutes, c'était le Suisse, là. Je pense qu'il est d'origine libyenne, Ismaël Tajouri Chradi.
Oui, mais il revient de blessure, lui, parce qu'avant ça, vrai, il avait eu une belle séquence aussi.
C'est vrai. Ouais, il avait 11 buts cette saison.
Ça,
11 buts en 16 matchs, c'est vrai.
Oui, il avait bien remplacé Villa pendant sa séquence.
Oui, c'est vrai. Là, il avait une blessure. Il est blessé, mais il n'est pas utilisé à 100%, mais oui. Mais soit
c'est le fun d'avoir des options sur le banc. Hein?
Ben oui, mais quand je vois ses stats, c'est en game log, soit il est titulaire, soit il est remplaçant non utilisé. Donc, c'est des choix intéressants. Mais oui, il a joué 23 matchs jusqu'à maintenant, donc il a raté des matchs sur blessure, évidemment. Donc on va repasser à travers le match. Évidemment, si vous écoutez, merci d'être avec nous. Et aussi, n'oubliez pas de nous supporter sur Patreon, patreon.com/. CAN Football Club, c'est notre campagne de crowdfunding. Et dans crowdfunding, il y a le mot crowd. Donc, c'est pour vous, par vous, grâce à vous.
Et il y a tous les autres podcasts aussi. Là. Dans une semaine, on n'a quasiment pas assez de temps d'écouter tous les nouveaux podcasts qui sortent. Là, celui que j'attends avec impatience là, cette semaine.
C'est celui du Barça.
Un podcast. Oh, God, ça va être le fun, ça, là. Le hein?
podcast. Oh, ça va être
super. C'est à notre tour de les caller out.
De les caller out. Ah, ça va être bien.
Hein? Mike, Alec, un podcast où Barça n'a pas gagné. Qu'est-ce qu'ils vont faire?
Ils vont faire quoi? En plus, c'était le derby Guardiola. Là. C'est le club de Guardiola avec le club de Guardiola.
Mm-hmm.
Donc, Girona contre Barça un partout. Donc, on est un petit peu déprimé, mais on va blâmer Moussa Dembélé ou je ne sais pas qui. Là.
Ils vont finalement admettre que Luis Suarez, ben, c'est terminé.
Exactement. Il est fini.
Il est fini.
Il faut l'enlever au Real.
Depuis quand Diego Mage est sorti de ce club-là, ils sont finis.
Tout à fait d'accord. Puis depuis le fait qu'il n'y a pas de maghrébin dans ce club-là, qui est titulaire, c'est inacceptable. Une erreur démographique. Bonne chance, Blagana Podcast. Et aussi le point Vendano sur la ligne. Aussi les trois lions, Borat Sport et Rock'n'Roll, MLS Africa Plus, et évidemment InfoCéen à Montréal.
Oh, donc, le pauvre. Ça aussi, ça va faire un beau podcast cette semaine.
Ça va faire mal, le derby Olympico. L'Olympico, ben, Lyon a écrasé Marseille.
Sofiane, c'est rendu que c'est nous, on a le podcast gagnant. Presque, là, mais c'est le moins loser des podcasts, c'est nous.
Ouais, le moins loser. Les trois lions, eux, c'est les winners tout le temps.
Ouais, c'est ça. Là, tu peux juste gagner. Quand tu prends pour la Ligue, tu peux juste gagner.
The house always wins, comme on dit, c'est ça? C'est ça.
Pas de commentaire.
Ben, ma belle UV n'a pas de gagner dans une ligue de bas niveau, là. La Serie A, désolé. Là. Par rapport aux joueurs qu'ils ont, c'est trop facile. Là, quand tu bats, genre, Frosinone 2-0. C'est 2-0.
Ben, hein. Bologne a fait un beau résultat en fin de semaine.
Très bon résultat contre l'AS Rome.
Première victoire. Ça aurait pu être le début de la panique là, à Bologne. Une petite victoire comme ça à domicile, quand même, contre Rome, ça peut relancer tranquillement leur carrière. Leur saison.
Ils peuvent respirer un beau match nul, très, très bon point. Puis Rome utilise le 3. Bologne utilise le 3-5-2, Hilton, avec Djemeli dedans. Djemeli était titulaire, il a fini tout le match. Quel joueur!
Est-ce que c'était le premier match de Nguyen Paz à Bologne? Je sais qu'il était habillé.
Il a joué. Non, attends, numéro 6, Nguyen Paz. Non, il était sur la feuille de match. Il est sur la feuille de match, mais il n'est pas rentré. Il n'est pas rentré, mais Djemeli a joué tout le match. Donc la connexion à Impact Bologne continue et Bologne respire un peu. Donc, cette grosse déviation hors impact, c'est pour dire le canapé, c'est incroyable. Si vous ne le savez pas, on vous le répète. On parle de
mais,
tout.
Mais ce match nul-là a fait perdre 5%, environ 5% de play-off et a quitté après ce match-là. Quand j'avais lancé la question après le match de Philadelphie, on est au-dessus de 90% play-off et là, on est tombé à 85%. Ça reste un beau chiffre.
Un beau chiffre.
Ça reste que Julien Tardif. Encore des chances de venir à notre podcast. Mais il ne faut pas qu'ils oublient. Hein? Il faut un play-off. Une fois qu'ils sont qualifiés, on va faire tout pour ta présence ici au Couscous Péripéri. Mais...
On va essayer aussi mentalement que tu ne viennes pas aussi. On va dire la vérité. Là. Comme j'avais dit avant, lui, c'est le match en main. Ben, nous, c'est le match de trop. Donc, ma blague va continuer. L'Impact a joué un match. L'Impact n'a pas perdu. L'Impact a fait son classique 4-3-3 contre un 4-4-2 Losange de New York City FC. Dans les buts, Sean Piquet-Souban-Johnson, Sweet Callen, Shano Tillenholm, Ring devant la défense, Matarita Amagat dans la pointe, sur les côtés du Losange, du Diamant, Morales en numéro 10 et David Villa avec le Viking Berget. Du côté de l'Impact, le 4-3-3 classique, l'alignement qui ne va jamais bouger, sauf en cas de blessure. Bush, Sania, Fanny, Camacho, Lovitz, Azira, Piet, Tider, Silva, Amarikwa. Azira marque son premier but pour le club sur un beau 1-2 avec Piatti. Tir du pied gauche est dévié, mais ça compte quand même. Et
premier but en carrière pour Azira.
Ben, oui, incroyable.
Incroyable.
Incroyable que lui, c'est Azira qui égalise.
La patte de Rémigard. Il est vraiment fort, Rémigard.
Il est incroyable. Il est incroyable. J'ai hâte de voir le brunch entre lui et Tony Marinaro. Azira à la 27e qui égalise après un but contre son camp du Rudy Camacho à la 17e. Quoique, je pense que le pressing de Berget et sa présence, je pense que le but était assuré quand même, mais je n'étais pas au niveau du terrain pour vous le dire. Donc voilà, le match est là. C'était pas nécessairement un match trop excitant sur le long. L'Impact a joué son compte classique, même s'il ne voulait pas le faire, New York allait être obligé de le faire. Puis je pense que un bon petit match qui arrange tout le monde, que l'Impact a beaucoup tiré, a tiré deux fois plus vers le but, presque trois fois plus que New York, mais les deux équipes ont le même nombre de tirs cadrés, merci. Mais évidemment, New York avait quasiment le double en termes de passes. Je pense que au moins 30-40% de plus de possession. Montréal était à 40 et puis New York était à 60%. Donc, je pense qu'on a vu le choix tactique des deux équipes et les capacités. Pour illustrer un peu le match, on va passer par les évaluations. Saputo d'or, trop poutine, j'ai un d'infant. Merci tout le monde à qui a participé. Toujours des dizaines et dizaines, si ce n'est pas des vingtaines. Donc, merci encore. Du côté du Saputo d'or, Nilton, j'hésite entre Bush ou Silva. J'hésite entre Bush, Silva ou Fanny. Parce que c'est les trois qui m'ont. Que je dis, je prends note de ça. Je vais le donner à Fanny. Je le donne à Fanny parce que c'est juste pour un. C'est un sorte de prix pour. Le travail de la saison qu'il fait, c'est un prix cumulatif, mais c'est un joueur qui va jamais tacler en glissant, il va tout le temps rester debout.
Ah, c'est fou. Hein.
Bonne relance, leader, dirige tout le monde. Quand les gens font des erreurs, il dirige, puis il dit quoi faire, puis il passe à autre chose. Puis, oui, vas-y, Georges.
Moi, ce qui m'impressionne, c'est son calme. Des fois, c'est uniquement ses déplacements.
Ouais.
C'est un bon défenseur. Puis il sait comment utiliser son corps, les courses. Ouais. Statistiquement, il fait des trucs très impressionnants. Là. Il y a beaucoup d'interceptions. Simon avait des interceptions, mais il y avait du danger qui venait avec ces interceptions-là. Lui, non. Lui, on ne s'est jamais rendu compte. Il n'y a jamais eu un moment où on a vu que Fanny avait des prises de risque trop forte pour faire un jeu. Hein. Mais à la fin du match, il se retrouve avec 5-6 interceptions, puis on s'en est pas rendu compte.
Non, tout à fait.
Il fait un gros, gros boulot en défense centrale. Puis si l'Impact de Montréal est si bon défensivement, c'est en grande, grande partie grâce à Rod Fanny. Là.
Incroyable. Diallo se blesse, puis Rod Fanny, on va le chercher. Dernière minute, ou peut-être c'est déjà planifié avant Diallo ou pendant Diallo, puis il s'avère
ça annonçait une catastrophe aussi parce que sa blessure est arrivée assez rapidement. Ouais. Son retour a été compliqué. On doutait beaucoup d'une. Est-ce que c'était vraiment la bonne chose à faire, une signature pour un joueur qui était peut-être fragile? Et là, il est en train d'aligner des matchs. Knock on wood, là, que
non,
si
Fanny
se blesse, on pourrait se retrouver. On voit son importance. Là.
Mais maintenant, si quelqu'un se blesse à ce niveau de la saison, genre, on peut rien faire. Quoi. C'est ce qui est fait. Là.
Ça m'étonne que tu aies parlé de Silva comme c'est plutôt d'or. Moi, j'ai été déçu par Silva.
Moi, ce qui m'a déçu le plus, c'est Tider qui m'a vraiment déçu. Extrêmement. Et Sania aussi, mais Sania.
Imagine si tu le dis.
Ah non, mais moi. Moi, en termes de top protéine, c'est Tider, il est là, quoi. Mankuzu, c'est facile.
Il avait l'air fatigué aussi.
Oui, il a l'air fatigué, il faisait des erreurs de base, là. Puis je pense que aussi New York était. Ce que Tider faisait quand l'Impact gagnait, puis le contre, puis il était numéro 10, ça marche pas contre New York. New York, c'est une équipe qui est beaucoup trop forte, à mon avis, pour que Tider ait la liberté de jouer ce rôle de milieu offensif. C'est ce que j'ai remarqué rapidement. Je dis, ça n'a pas de son match parce que c'est une équipe qui joue beaucoup trop bien au ballon. Et puis Tider peut pas faire ce rôle-là. C'est même Jamali. Tu mets Jamali dans cette situation, il va se perdre aussi. Je pense qu'il va mieux jouer, mais il va pas être aussi efficace. Et je trouve que dans le profil de Tider, ce que New York a fait, je pense que continuer ce que Tider a fait de bien en termes de milieu offensif face à New York City FC, moi, c'est quelque chose qui était voué à l'échec. J'ai le réalisé au début de match, mais bon, je l'ai pas tweeté, donc je l'ai pas dit, Nilton. Hein. C'est ça qu'on dit. Mais moi, j'ai aimé Silva. Je crois que je l'aime bien, Silva. J'aime juste sa hargne, le fait qu'il court. Oui, il est hors-jeu. Oui, il fait des erreurs. Mais je trouve qu'il a failli marquer le but du 2-1 en contre-attaque. Tu sais, je trouve vraiment.
Le fait qu'il y a beaucoup d'énergie. Il a mieux terminé le match.
Oui,
peut-être resté avec cette impression-là. Ces 45 premières minutes étaient pas mal brouillon. Ce que j'ai aimé de Silva, par contre, là. Je sais pas si c'est un truc que je me suis rendu compte sur ce match-là, seulement où il fait plus souvent, c'est son positionnement. en défensive. Là, quand le bloc est bas, il est pratiquement un cinquième défenseur. On se retrouve avec une ligne de cinq.
Ouais.
Très, très, très souvent, Sagnon se retrouve dans une position beaucoup plus proche de Fanny.
Ouais.
Et Siva vient prendre la place pratiquement du latéral.
Ouais.
C'est pas l'équivalent. Là. Piatti ne fait pas ça de l'autre côté. Là.
Il ne fait pas systématiquement, ça c'est sûr.
Ouais. Ouais. Ouais, je ne sais pas si c'était dû par le fait que beaucoup d'attaques passaient sur le côté gauche et on avait ce positionnement-là, mais j'ai vu un Silva très, très bon dans sa zone, mais ça ne l'empêche pas de faire des courses vers l'avant. Là. C'est toujours le premier en avant en contre-attaque, même s'il se retrouve très, très bon dans ses 10-15 premiers vagues.
Là. Non, je trouve bon, je suis un peu de drama avec mon choix, là, mais c'est correct. Toi, ton Saputo d'or, c'était, tu pensais plus à Piet ou à Piatti ou...
Ben moi, j'ai fait une petite blague, mais c'est pas très, très loin de la vérité. Là. Mancuso, en 10 minutes, ça a été une catastrophe. Je sais que Richard, je me souviens plus de son nom de famille, qui m'a dit qu'il faudrait que je lâche un peu Mancuso, mais sérieusement, il y a des trucs sur... On a tous vu en 10 minutes qu'est-ce qui fonctionne pas avec ce gars-là. Quand il y a eu la fameuse chance là, où Piatti, il y a une contre-attaque, le ballon ouais. est envoyé à Quincy, est envoyé à... je me souviens plus c'est sur qui on s'appuie, pas Quincy parce que Matteo venait de rentrer. Il y a une contre-attaque et là, Piatti monte avec Silva.
Oui.
On ne voit jamais, jamais Matteo dans la séquence.
Non, oh, il est jamais là.
Silva commence la séquence plus bas que Matteo. Silva finit la séquence en option de passe pour Piatti. Il y a une fois que la séquence est terminée où le gardien vient voler le ballon, on voit toujours pas Matteo à la fin de cette séquence-là. C'est pas normal que Matteo Mancuso, qui est notre avant-centre, n'est jamais disponible dans la boîte, dans des contre-attaques. Il est pas seulement lent physiquement, mais il est aussi lent dans sa prise de décision, dans ses réactions.
Il n'est plus là.
Les prises de décision sont mauvaises. C'est hors-jeu. Il y a un problème d'être hors-jeu comme ça.
Il n'est plus là, Nilton. Il n'est plus là.
Il tue les opportunités. Il tue ses opportunités de but par des...
Oui, mais est-ce que
c'est mental? Bon, je le sais pas.
Je dis honnêtement, Nilton. Honnêtement, c'est pas pourquoi je veux pas couper la conversation. On peut continuer après, mais honnêtement, on s'en fout. La raison pour laquelle... Là, on est quoi? J'avais dit que le 23 septembre. En ce moment-là, Mancuso, trop potine ou pas, hors-jeu, sur le but. Oui, au moins, il était dans la surface pour une fois. Il est intéressant. Honnêtement, là, fatigué mentalement, on s'en fout. C'est fini.
Oui, mais c'est un problème. C'est un problème parce que l'équipe avait clairement besoin d'éléments offensifs.
Je te rejoins, Nathan.
On voyait, là, comme tu as dit, Tider, si on avait d'autres choses sur le banc, de moindrement valable,
il sort à la 65e, oui, c'est sûr.
Probablement qu'on sort un des deux, Piet ou Azira, dans ce match-là aussi, en fin de match, pour aller chercher un but. Silva aurait pu sortir aussi, mais il n'y a absolument rien sur le banc.
Nathan, le fait que Silva performe comme ça, c'est déjà un recrutement bonus en été, alors qu'on savait pas à quoi s'attendre. Azira, ça comble un trou, et Amerikwa, ben, il fait déjà mieux en 120-130 minutes que Mancuso a fait depuis un an et demi, ou même plus. Donc on se dit, si tous ces nouveaux gars et les renouvelés sortent, on va se retrouver à la même situation qu'on était il y a 3 mois. Donc on se dit, ben, on savait déjà que c'était précaire, on n'avait pas de 11 partants déjà. Là, on a un 11. Mais on sait qu'il n'y a personne d'autre en arrière. Donc on se dit, ben, too bad. Mais pour dire pourquoi je dis on s'en fout, genre, c'est fini là. C'est genre, on le sait. On connaît les conséquences. Si Kamerekwa se blesse, si Silva se blesse, si Azira n'est pas disponible, on sait que l'impact va dans le trouble. On le savait déjà. C'est comme ça depuis 6-7 mois. Donc on se dit, ben, Mancuso. Même moi, genre, je ne dis pas que j'ai pas envie d'en parler, Nilton. Au contraire, ton point est valide. Mais juste pour dire. Les conséquences d'avoir Mancuso, de ne pas l'avoir, toutes les conséquences des choix du club, que le club a fait, positives et négatives, elles sont là, elles vont partir de nulle part. Le chemin est déjà pris, ils peuvent pas rebrousser chemin, ils peuvent pas changer de direction, c'est fini. Ils sont en cruise contrôle, il faut juste espérer qu'ils gagnent leur match pour être en Syrie, après en Syrie, ce qui arrivera. La loi de Murphy, là, tout ce qui peut arriver de mal va arriver, puis ça aussi, tout ce qui peut arriver de bien va arriver aussi. Mais ce que je dis par rapport à ces. Tu sais, même maintenant, tu sais, parce que là, on se parle entre nous, là, c'est CPP, c'est pas deux gars qui viennent de découvrir l'impact. On dit ça depuis 2 ans. On le sait, là, tout ce qu'on dit là, on se répète. Je sais pas qu'on a fait pour faire, je sais pas moi, 40 émissions en 2 ans. J'ai aucune idée. Honnêtement, je suis encore choqué. À chaque fois, je me dis, on a encore enregistré une heure? Encore? Comment on a fait ça? Mais c'est pour dire, le club a fait ce qu'il a fait. Donc, je l'ai fait, ces analyses-là, mais je vais plus obséder comme avant à me dire, ouais, mais Marcuzo n'a pas fait ça, il n'a pas fait ça. Ouais, mais qu'est-ce que tu veux? C'est genre, ils ont fait leur choix. Tu sais, ils ont piaté Dieu merci. Silva est court. Tyler, il s'est reconverti au numéro 10 au bon moment. Puis, alléluia, tu vois. Mais c'est juste pour dire, c'est un très bon point. Là,
mais une chance que Rémi Garde a réussi à solidifier cette défense-là. Il y avait des éléments qui étaient déjà là défensivement très bons. Là. Piette fait toujours le même boulot défensif.
Ouais, il était excellent.
C'est le fun d'avoir un milieu défensif dans une équipe. Là. Je peux pas croire qu'on n'a jamais eu un avant. Je peux pas croire que certaines personnes critiquent Piette en disant qu'il va rater. Les relances sont plus ou moins ça. Et des fois, il va le trouver qu'il a l'air débordé. Je peux pas croire qu'il y a
des gens... Il relance à qui, là, déjà? À qui il relance, là? C'est la question. C'est la question numéro un. À qui il va relancer? À qui relancer pendant un an et demi? Alors, posez-vous la question.
Je veux dire, n'oubliez pas que vous avez critiqué le fait qu'il est arrivé de la 3e division d'Espagne, puis que là, aujourd'hui, s'il n'est pas là, 30 matchs consécutifs plus tard, si Piette n'est pas là, ce club-là est déjà éliminé.
Tout à fait.
C'est pas une analyse homeboy, là. C'est pas du tout ça.
Non.
Un gars comme Piette, ça a été le début d'un bon bloc défensif. C'est ajouté derrière Fanny. Camacho défensivement, c'est so-so.
J'ai encore un bémol sur Camacho. Là.
Oh, est-ce qu'on va tout de suite aux questions? Justement, il y a une bonne question là-dessus.
On y va. Puis, juste rapidement, merci GM Soccer, Adi Raphaël. Bon, juste rapidement, le gros Benji. Saputo d'or, Samuel Piet, Tropotin Silva. C'est pas son horrible. Gérard d'infant, elle est huée à l'entraînement Kozou. Un petit dernier, Rodolfo.
Il a huée à Mancozu à son entrée.
Je l'ai pas vu ça à la TV. Rodolfino, Saputo d'or, Piet, solide match. Tropoutine, Tider, le couscous manquait de saveur, 1, 2, 3, vive Algérie. J'ai l'air d'un foin, les gens qui partent à la 85e. Donc, merci tout le monde qui ont participé. Machi Bouzouk, Lehien, _Do, Yannick Hamelin, Dominique Richaud, JM Côté, Anthony Bellil et tout le monde qui a participé aux avaliations. Mais là, tout de suite, on passe aux questions. Go, Georges, go!
Une petite parenthèse. Moi, là, personnellement, j'ai été hyper surpris par le sold-out.
Ah, moi, non. Moi, non, parce que je m'attendais qu'il y ait une remontada populiste là, pour...
Mais un sold-out, quand même, 24 heures avant.
Profiter du momentum.
Là, ce serait le temps que le président sorte. Là.
OK, Nilton.
Ça serait le fun.
Nilton.
Non, mais c'est... Quand
Nilton, je m'arrange mon microphone pour faire l'effet. Là.
C'est pas grave, là. Quand le renforcement positif, de temps en temps, c'est le bon aussi, là. Tu sais, se faire taper dessus parce que la foule n'est pas là, se faire taper dessus parce qu'il y a 14 000. Là, ça serait le fun de dire que 20 000 personnes comme ça en fin de saison, à l'automne, c'est bien, non?
Le président va seulement parler quand ils vont faire la série. Hein? C'est tout.
Je ne sais pas si vous avez vu les images aujourd'hui, Fidelity à Kansas City. C'était loin d'être plein?
Non, mais Newton... On se plaint beaucoup trop à Montréal sur les influences, sur la couverture médiatique, alors qu'on est même capable d'apprécier ce qu'on a déjà. C'est ça le problème, Milton. Il y a un gros problème avec ça. C'est à Montréal, on veut tout, alors qu'on veut rien donner. On veut pas des billets trop chers, mais on veut pas qu'on traite comme un client. Il faut que tu sois supporter, mais tu veux du customer service. Je veux 15 000 émissions en foot, mais je veux payer pour rien. Là, OK. OK. Ouais, on a compris. We got it.
J'adore comment t'as placé dans la dernière phrase.
C'est ça. Donc voilà.
Oh,
voilà,
God.
Voilà, ouais. C'est genre. Donc c'est ça. C'est ça qui est ça. Mais Nilton, est-ce qu'à un moment tu as insinué que c'était peut-être du fake news que le match, que le stade était rempli?
Non. Ben non. On les a vus, là.
Ah.
En tout cas, moi je ne pouvais pas aller au match.
Moi non plus.
J'ai donné
donc,
mes billets, mais de ce que j'ai vu à la télévision, c'était plein, là. C'est bien.
Non, je n'étais pas là, donc je ne peux pas y croire à 100%. Là, mais on va
oh,
y croire.
Come on! Vous autres, les races.
Les ethnies.
Toujours en train de douter.
Les ethnies. Toi, t'es la première génération d'ethnies. Moi, je suis la deuxième génération. Là, puis on fait ce qu'on peut. Ou la troisième. Parce que
ouais. Dans le fond, on a habité les mêmes quartiers, mais juste 30 ans d'écart.
Exactement. Puis nos loyers sont beaucoup plus chers parce que on n'avait pas la bonne religion. On n'avait pas la bonne religion, c'est ça. Puis vous êtes
on
les propriétaires.
Attention, là.
Que vous êtes les propriétaires.
On se fait-tu un couscous péri-péri après les résultats des élections?
Débat Québec, ouais. Non, mais
on ira pas.
Évidemment, les gens, on blague, là. Il n'y a pas de tension raciale, ethnique entre moi et Newton.
Ah non.
Non, pas du tout.
Non, Revenons à Camacho.
Camacho.
Steph nous demande l'année prochaine. Camacho right là. Camacho, comme dit Steph, est pas si mauvais, mais 700 000, 4 ans. Est-ce que c'est vraiment, de toute façon, un sujet débat chez l'Impact de Montréal?
Regarde, j'y pensais à ça seulement avant la question. Aujourd'hui, j'y pensais pour 30 secondes, oui, à Camacho. Ce qui me dérange avec Camacho, c'est que c'est pas Camacho qui me dérange tant que ça. Je suis beaucoup plus convaincu maintenant que durant l'été, entre ses blessures.
Oui, ça s'améliore. Là.
Ça s'améliore, mais c'est juste que qu'est-ce que va vouloir Camacho quand Fanny ne sera pas là? C'est ça que c'est la question qui me chicote un peu.
Ah ouais, parce que c'est pas du tout le même profil. Là.
Non, c'est ça. Et Raïtala, je pense qu'il est quand même constant. On sait à quoi s'attendre de lui. Donc on sait que c'est pas nécessairement un numéro 1 entre guillemets. Camacho, peut-être c'est un numéro 1, je ne sais pas, mais il a besoin d'un gaillard qui met le pied. Donc est-ce que ce gaillard-là s'appelle Diallo l'année prochaine? Bon, Fanny est encore là l'année prochaine, mais est-ce que. Si l'option est c'est une option qu'il a pour 2019, c'est ça? C'est une option entre le club et Fanny, je pense. Mais c'est plus. Est-ce que Camacho peut être le leader et dire c'est moi le boss, je vais mener la défense comme Fanny le fait? Je pense que non, sinon il ne serait pas dans une équipe inconnue en Belgique, donc, dont je n'ai jamais entendu parler. Ça ne veut pas dire que c'est un mauvais joueur, c'est un professionnel. Voyant comment il joue, il mérite d'être un professionnel dans une division 1 dans le monde pour être payé à jouer. Aucun problème avec ça. Je ne parle pas de supercherie que le gars, ce n'est pas faire une passe. Ce que je me dis, pour les besoins de l'Impact et voir comment la Ligue gère ça, est-ce que c'est le, ton gars numéro 1?
Non, il est très, très loin du profil de général derrière. Même pendant le match, on a vu, il y a une passe qui fait à Zira, là, une passe là, tellement dangereuse. Tant mieux, ça a fonctionné, là, mais on le voit, là.
Ouais.
On voit tout de suite, une fois qu'il fait la passe, même si ça a été réussi, on voit Fanny, là, je ne sais pas ce qu'il lui dit, là, mais
il fait
comprendre que, attends, là, c'est quoi, ça, tu aurais pu tellement nous mettre dans le trouble.
Non, c'est vrai.
Quand tu le vois aller sur le terrain, on n'est jamais convaincu que les duels sont gagnés d'avance. T'sais, c'est tout le contraire de Fanny. Tu le vois déplacer, puis on le sent en contrôle. Raïtala, c'est pas ça, mais c'est l'efficacité tranquille.
Oui, exactement. Alors
Camacho,
que...
c'est... Oh, il l'a eu.
Camacho, oui. On va appeler cette saison une saison de transition, dans tout pour lui, dans tous les aspects d'une transition pour un nouveau joueur. Donc, malheureusement et heureusement, je vais attendre mi-chemin de l'année prochaine pour voir ce que ça donne. Et dans quelles conditions il va jouer, et quel est dans quel cadre. Parce qu'honnêtement... Jo Inge Berget, le Norvégien, là, si lui te bat régulièrement, est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Peut-être que le gars est très bon. Il a joué un peu en IPL, mais très peu. C'est un gars qui joue en Suède, notamment. Donc, est-ce que c'est quelque chose de... Tu veux dire, est-ce que c'est quelque chose que je dois prendre en compte? Je pense qu'il était aussi au Celtic, je pense. Mais il a fait beaucoup de... une partie de sa carrière à Malmö en Suède. Donc, voilà, quoi, c'est ça le barème. Est-ce que Fanny serait fait avoir par Berget plusieurs fois? Je pense pas. Non. Encore une fois, que vaut Camacho quand il va tout seul l'année prochaine, tout seul, sans Fanny, si Fanny ne reste pas ou plus tard? Parce qu'on a maintenant, en termes d'investissement, en termes de transfert, de salaire, je me dis, OK, il est vraiment si bon que ça? C'est tout. Je ne dis pas qu'il est mauvais, c'est plus par rapport aux besoins du club.
Ouais, voilà. C'est son salaire qui fait en sorte que, tu sais, si on dit qu'il gagne 400 000, fine, il te faut des joueurs comme ça. Si on dit qu'il fait la même chose que Silva, tu dis, ouais, Silva, il apporte beaucoup plus au club que Camacho. C'est plus ça, mais bon.
Mais j'aimerais le voir dans un contexte là, de leader et voir ce que ça donne, parce qu'il faut que le gars grandisse. Tu sais, il est encore jeune, entre guillemets, donc il est là pour se développer en tant que joueur de foot adulte, là, dans l'âge adulte du joueur de foot. Donc, moi, ça ne me dérange pas de lui donner du temps. Mais c'est plus, est-ce que le club aura la patience et peut se permettre de prendre comme hypothèse Camacho, c'est mon numéro 1? Si c'est ça, tant mieux, puis allez-y. Et peut-être ça va l'aider à se développer en étant le leader, parce qu'il n'y aura pas un vétéran devant lui qui va le...
Mais un gars comme Raïtala, là, cette saison, on a vu tellement son utilité dans un effectif. Il peut occuper deux positions clés et à chaque fois, il fait pas mal. Mais, là, il se retrouve un peu injustement sur le banc.
Ouais. Mais il est utile. Ça ne veut pas dire qu'il est bon. Mais ça veut dire qu'il va être bon sur 30 matchs. S'il est bon sur 10-15 matchs puis il remplace les autres, c'est bien. C'est bien d'avoir un joueur comme ça. C'est parce que Raïtala est bon sur 5 matchs que te dire, ben, oui, il faut qu'il joue 35 matchs en tant que titulaire. Peut-être c'est bien qu'il soit un joueur d'utilité, comme tu dis, puis qu'il vient comme remplaçant. C'est peut-être pas une mauvaise chose, Nilton. Je sais pas ce que tu en penses.
Étienne Roy nous demande qui des trois nouveaux on re-signe pour l'an prochain. Azira, Quincy, le troisième
C'est Sagnan, je présume.
C'est Sagnan, c'est pas déjà fait ou c'est une option lui aussi?
Ça, je sais, je connais son contrat. Je me rappelle plus le contrat.
Azera, c'est sûr, à moins qu'il soit. Exigeant au niveau salarial. Ça n'a pas l'air trop son style. Azera, c'est le profil que Rémi Garde va aimer. C'est un joueur très utile. Mm-hmm. Que ça soit peut-être pas comme titulaire à chaque fois, là, mais un profil d'Azera dans des matchs où tu as besoin de solidité défensive, il va être là. S'il y a un pépin physique arrive à Piette, il peut occuper le poste de Piette. C'est un gars parfait pour Montréal. Je ne sais pas qui a suggéré, qui a sorti ce nom-là du chapeau, mais c'était une super belle prise. C'est sûr qu'il revient.
Moi, je te rejoins. Sur les trois, c'est Azira, mais Sagnan a une option pour 2019. Du club ou de lui, je ne suis pas sûr. Mais si je suis entre Azira et Kunsi...
De ce qu'on a vu dans les derniers matchs, c'est réglé. Voilà. Sagnan aussi, là. Il apporte aussi une belle dynamique au sein du groupe. On le voit, il s'est inséré rapidement dans le groupe. Leader, il est passé par des situations beaucoup plus compliquées que la MLS. Donc, on le voit, il est calme. Quincy...
Mais de ce que j'ai vu du recrutement de l'Impact, là, en termes d'attaquants, Quincy devrait re-signer. Parce qu'ils ne sont pas capables d'aller chercher des attaquants. Donc, je me dis...
Oui, mais un Quincy, 20 minutes en défin de match, après que ton vrai neuf a mis un ou deux buts, c'est parfait, là.
Non, c'est vrai. Je ne sais pas... On va voir. Hein. Le club a un plan mercato pour l'hiver, on verra. Mais Quincy, je doute fort qu'il le re-signe, mais moi, j'aimerais bien l'avoir, parce que je l'aime bien. J'aime physiquement, là, ce qu'il fait, c'est juste 10 000 fois mieux que Mancuso. C'est un petit attaquant qui joue comme un pivot de façon parfaite.
Je serais plutôt étonné qu'il ne signe pas.
Ouais, mais l'argent qu'il est payé, s'il re-signe, ils vont vouloir utiliser l'argent ailleurs, je pense. À mon humble avis. Quoique Mancuso ne sera plus là. On verra. Mais s'il y a un choix à faire, c'est Azira. Mais sinon, moi, je prendrais les deux, Azira et Quincy. Mais honnêtement, l'année prochaine, c'est tout un autre contexte. Et on recommence à zéro avec des postes clés. Donc, on voit ce que ça donnait. Est-ce que Tyler sera encore là l'année prochaine? Ça, c'est une autre question à se poser.
De quoi tu parles?
Mais Tyler, il a un prêt de 2 ans. Un prêt, ce qui peut revenir n'importe quand à Bologne. Bologne se fait reléguer. Ils font quoi? Ils vont vendre Tyler. Ils vont le libérer.
On va l'acheter.
OK. Mais je t'ai dit, le fait qu'un joueur est en prêt, pour moi, c'est un facteur X à prendre en compte. Tu dis, il se peut qu'il ne soit pas l'année prochaine. Comme Jim Hiley, qui est parti soudainement. Donc, je vais juste dire, Tyler, c'est bien cette année, mais tant qu'il n'est pas un joueur de l'Impact signé, transféré, il a des chances qu'il ne soit pas l'année prochaine. Je ne sais pas des nouvelles, je n'ai pas de nouvelles, je n'ai pas de inside, juste pour dire, de façon factuelle, il est en prêt de Bologne. Bologne se fait reléguer, qu'est-ce qui se passe? Ouf, vous avez aimé ça, hein? Le silence là.
Il y a plusieurs personnes dont Jacques nous parle de la fameuse main dans la séquence qui mène le but.
La fameuse main, ouais, mais.
La fameuse, les deux fois où le ballon semble aller à la main, tout ça. Tu sais, oui, quand on regarde la séquence de but puis on cherche les erreurs, là, celle-là, elle semble évidente, mais.
Oui, mais.
C'est pas vraiment important.
Mais dans le sens
que
c'est par rapport au VAR. C'est par rapport au VAR, c'est ça? Est-ce que le VAR a
reçu? Mais au VAR, c'est pas une question. Là. C'est pas quelque chose d'évident dans une, qui mène. C'est une séquence qui mène au but, mais c'est pas ce qui provoque le but. Là.
Oui, c'est vrai.
Techniquement, je crois pas que c'est une décision qui peut être appliquée à la VAR.
Mais en tout cas, la VAR, c'est. Je suis pas sûr qu'il y avait débat de dire jusqu'où on va reculer pour analyser l'action du but. Et je pense pas que cette séquence faisait partie de l'action du but, entre guillemets. Maintenant, c'est ça le débat. Jusqu'où on doit reculer? Est-ce qu'on recule au moment où le gars gifle un autre joueur hors du terrain, qui ressent qu'il n'y aura pas avec l'action, puis on arrête le jeu là? C'est ça le débat avec la VAR. Jusqu'où on recule pour annuler un but?
Maintenant, et sur le terrain, personne ne réagit quand ça arrive. Là. C'est quasiment c'est anodin. Là. C'est une anecdote. Là. C'est
mais c'est vrai que c'est je trouve que le point est intéressant. Moi, je suis d'accord. Si je dis, il y a une main, on fait quoi? Mais avant que le VAR existe, il est arrivé quoi? L'arbitre siffle rien, il y a but, c'est fini. Maintenant qu'on a lutté que c'est pas le VAR, ça va évoluer. Si on va décider qu'on va reculer une action qui va vers l'avant sans interruption, donc tout ce qui arrive durant cette séquence est éligible à être revu par la VAR pour annuler un but, pourquoi pas.
Ouais, c'est clair. Ça commence à être ridicule un peu. Là,
je suis d'accord, Nilton. Je vais juste dire, montrer les scénarios pour dire comment ça peut être complexe. Je suis d'accord avec toi. Donc, c'est ça. C'était quoi? Je pense que c'était c'est Philosa qui mettait une vidéo sur Twitter pour montrer un peu.
C'est le premier qui l'a signalé, en
voilà.
fait.
Ouais, c'est le premier qui l'a signalé, ouais. Donc, au moins, je suis très content qu'il l'ait montré, parce que moi, je ne l'ai pas remarqué. Mais encore une fois, le VAR, vraiment, a vu, s'est dit, on va pas aller si loin dans la séquence.
Quand il y a une séquence comme ça qui arrive, là, j'aime l'appliquer contre nous pour voir comment on réagirait, là. Ouais, sérieusement, là.
Exactement.
Ouais, si mais ça avait arrivé à l'époque de Montréal. On enlève le but parce que à l'autre bout du terrain, le ballon est venu toucher à la main qui a absolument rien changé à la séquence. Il n'y a pas eu d'avantage, rien. C'est un ballon vite, le bras.
Exactement.
Le bras n'est pas collé au corps. Cet argument-là qu'on sort à chaque fois, le bras n'est pas collé au corps. Qui court le bras collé au corps, c'est bol?
À part les pingouins, il n'y a pas beaucoup, je pense.
À chaque fois, ça va être justifié, tu sais. La position non naturelle. Mm-hmm. C'est-tu naturel d'avoir le bras collé au corps? Non. Mm-hmm. Donc, si on avait refusé un but à Montréal à cause d'une séquence comme ça, on aurait tellement crié, là.
Non, c'est vrai.
Ça aurait été tellement fou, en plus, de refuser un but à l'Impact de Montréal, parce que à l'autre bout, Lovitz a touché. Le ballon est venu toucher à sa main. Mais non, ça n'a pas de sens. Donc, si ça n'a pas de sens pour nous, ça n'a aucun sens non plus pour les autres équipes. On n'a pas pris un but à cause de ça. Là. On a pris un but parce que Camacho, il a plongé.
Il n'a pas couvert le grand
norvégien. Contrairement à Fanny, il n'a pas défendu debout.
C'est vrai.
La semaine prochaine, ça c'est Mighty Mitz qui nous pose la question. L'année prochaine, quel match est le plus important? DC United contre l'Impact de Montréal ou les Red Bulls contre Atlanta? Mm. Ben, il y a un problème avec les Red Bulls. Il y a une petite séquence en fin de match pour les Red Bulls. Bradley Wright Phillips est venu faire un petit... Il est venu sermonner un peu le juge de ligne qui a demandé à l'arbitre en chef de lui donner un carton jaune. À cause de ce carton jaune, Wright Phillips va manquer le match contre Atlanta qui va déterminer probablement qui va finir premier dans la ligue.
Oui, c'est vrai. Mais puis j'avais entendu l'audio de M. Wright Phillips qui n'était pas du tout content. Là. Il disait je comprends pourquoi, là, parce que je dis un gros mot, puis j'ai un carton jaune pour ça, alors que d'autres joueurs n'ont pas nécessairement ce genre de traitement de la part des arbitrages. Puis l'arbitrage, on l'avait même demandé, est-ce que parce que t'es pas un gros nom, comme certains grandes stars? Il dit oui, c'est possible, hein, je suis peut-être pas,
C'est le joueur de la MLS.
Saison
après saison, c'est celui qui...
Mais est-ce que tu as l'impression... Est-ce que tu penses à lui directement quand tu parles de meilleur attaquant de MLS?
On devrait.
Je suis d'accord.
Moi, ce qui m'énerve un peu là, dans des séquences comme ça, je sais que c'est plus ou moins applicable, là, mais à quoi ça sert de suspendre un joueur? T'sais, les arbitres devraient avoir une certaine conscience de ce qu'ils sont en train de faire comme geste. Il devrait savoir que s'il donne un jaune à Wright Phillips, c'est une suspension dans le prochain match.
Non, ils peuvent pas calculer durant le match, ça. Ils le savent avant le match, mais ils vont pas se dire « Ah oui, je ne donne pas. »
Oui, parce que la nature du règlement, c'est pour pénaliser l'accumulation de fautes. C'est-tu vraiment une faute qui s'est passée là? T'sais? Un joueur qui s'approche d'un juge de ligne puis qui lui dit « T'as été nul, c'est un mauvais call », on s'en fout.
Non, c'est vrai, mais honnêtement...
C'est pas un jaune.
Non, mais l'arbitre...
Si en plus tu sais que si tu lui donnes ce jaune-là, c'est une suspension, mais si tu lui dis plutôt, tu sais, là, attention, là, t'es à un jaune d'une suspension, calme-toi, tu sais.
L'arbitre fait son travail, Nilton. Il dit, moi, je peux pas prendre en compte ses paramètres. Je lui dis, il a utilisé des gros mots.
C'est exagéré comme conséquence.
Non, c'est vrai, mais il peut pas faire ça. Il peut pas gérer les conséquences de son geste par rapport au prochain match. Lui, il a pour gérer ce match-là, c'est 90 minutes.
Être arbitre, c'est aussi être un diplomate, puis c'est gérer le spectacle.
Le spectacle en cours, pas le prochain match.
Et oui, mais ça fait partie du spectacle.
Je rejoins ton idée générale, Nilton, mais pour l'arbitre, il ne peut pas gérer ça. Et surtout, la seule chose qui est décevante pour Wright Phillips, c'est qu'il est surtout... d'autres joueurs auraient pu se prendre des cartons jaunes en utilisant des gros mots envers l'arbitre ou en parlant avec l'arbitre en utilisant des gros mots sans nécessairement l'insulter de l'arbitre directement.
Donc, on ne sait pas voilà. ce que c'est dit, c'est sûr. Là.
Bah, c'est des, la, le l'arbitrage avait dit que le carton jaune a été donné pour for descent, mauvais langage là, parce que il a plusieurs F-bombs anti-dirigés vers l'arbitre assistant Pochel. Il disait que Brad Phillips disputait le fait que c'est une faute. Que la faute qui n'a pas été appelée, et puis il a souffert sur cette faute-là, et puis dans le statement de l'arbitrage.
C'est exagéré. C'est tellement exagéré.
Motobuse of the word F directed at the assistant referee in an aggressive manner. Donc maintenant, Ralph Phillips a dit beaucoup d'autres joueurs utilisent des gros mots en parlant aux arbitres, pourquoi moi j'ai un carton jaune. Mais moi,
c'est tellement un problème qu'on le voit dans les grandes compétitions. Là. On a essayé de retirer cette conséquence-là pour les finales. On l'a vu, là, on a tellement peu de confiance aux arbitres et aux joueurs qu'on s'est dit, on remet le compteur à zéro en demi-finale pour être sûr que les bons joueurs ne soient pas suspendus pour des stupidités comme cette semaine.
Mais Milton, honnêtement, là, moi, je suis content que cet incident est arrivé parce qu'il faut qu'ils arrivent plus souvent pour que les gens réalisent. Le football en général réalise, amateur et professionnel, ainsi que l'arbitrage, c'est que la relation entre l'arbitre et le joueur et les clubs est une relation malsaine. C'est toxique. C'est catastrophique. Mais c'est honnêtement, par rapport à d'autres sports, je ne comprends pas comment ce sport ancien, majestueux entre guillemets, et puis bling-bling, n'est pas capable de gérer. De transformer et d'assainir cette relation-là. Moi, personnellement, la relation entre un joueur, l'arbitre, pourquoi les arbitres sont tous méfiants, puis ils sont méchants? Parce qu'ils sont obligés de se protéger contre des joueurs qui appellent les insulter, qui n'ont aucun respect pour eux. Donc, à la fin, par exemple, j'ai souvent joué au foot toute ma vie, puis dans 2 ans de ma vie, j'ai joué au rugby amateur, ici. Au rugby, l'arbitrage est d'une perfection telle que quand je vois l'arbitrage du foot que je subis, même quand je joue amateur pour le fun dans une ligue de garage et que je vois à la télé, c'est inacceptable comment les arbitres sont traités et comment aussi les arbitres traitent les joueurs. Au rugby, il a un respect clair entre l'autorité de l'arbitre qui est la seule autorité sur le terrain. La seule. Le concept de capitaine est appliqué au rugby de façon systématique. Si il y a une faute.
Mais sérieusement, je pense que ça doit être le seul sport que c'est comme ça.
Oui, mais ils le font.
C'est vraiment l'exception ailleurs. Ouais.
Oui, je suis d'accord, mais ils le font. Ils le font. Au rugby, quand tu fais une faute, quand un arbitre donne un carton jaune, il te ramène toi et ton capitaine et puis il t'explique pourquoi il te donne le carton jaune. Il t'explique clairement ce que tu as fait ça. Puis il dit au capitaine, dit à tes autres joueurs de ne pas faire ça. Puis il dit carton jaune, puis il va, je pense, c'est 10 minutes dans le bon pénalité, entre guillemets, là, parce que quand t'as un carton jaune. Donc la communication entre l'arbitrage et les joueurs, c'est déjà une chose. Et aussi, la communication est primordiale, puis aussi le respect mutuel. Parce que la relation est toxique, elle est dégueulasse, elle sert à rien. Les joueurs, ils n'arrêtent pas de gueuler. Oh, fuck you, ref. Puis ils n'arrêtent pas de rentrer dans l'arbitre, se mettre dans sa face et l'entourer. Pourquoi tu penses que la MLS a mis une règle que, genre, si tu fais trop de. Si t'es quand on appelle ça la règle, il crowd le referee, qu'il y a trop de joueurs autour, il donne une amende au club.
La règle anti-TFC.
C'est ça, exactement. J'adore cette initiative de la MLS parce que c'est une façon de dire on va prendre l'argent de votre poche tant que ça continue. Puis il faut qu'ils escaladent les conséquences de ça. Parce que la seule façon, c'est d'abord punir tout de suite et ensuite tu éduques. Mais l'éducation est primordiale. Quand tu apprends à un jeune, quand tu vois ton coach U12 à Brossard qui insulte l'arbitre, toi tu vas faire quoi? Tu vas l'insulter aussi à U12 et à U14. Même si c'est du amateur, tu vas jamais jouer pro. Donc pour moi, il faut mener l'exemple. Si d'autres sports le font, notamment le rugby, un sport très violent, extrêmement violent, avec des côtés très mesquins à tous les niveaux, comme dans d'autres sports quand c'est compétitif, c'est pas normal que le foot n'est pas capable de le faire. Pourquoi il le fait pas? Parce que dans le grassroots, c'est une culture de méfiance, de tricherie, de manque de respect et de non-communication. C'est pas compliqué. Parlez-vous, mettez des règles strictes et surtout communiquez. Voilà. Moi, je trouve ça super. Excusez-moi pour mon rant parce que j'ai vécu le rugby un peu et quand je vois ça à la télé, les arbitres de rugby, c'est incroyable. Ils sont pas parfaits.
Non, quand on n'est pas habitué puis qu'on voit un match de rugby, on est assez impressionné par cette relation-là. Moi, je suis pas un amateur. De temps en temps, quand c'est la Coupe du Monde
ou le Portugal qui joue, ouais.
Non, même pas. Je suis toujours un peu impressionné par cette relation de respect.
Ouais.
Puis on voit que l'arbitre est tellement plus calme dans un match. Mais c'est sûr, j'ai pas l'expérience de semaine après semaine. Là. Quelqu'un qui suit le rugby de façon que hebdomadaire va dire « Ouais, là, c'est des exceptions, ça se passe pas tout le temps comme ça, là, j'imagine. » Mais
oui, ils sont pas parfaits, mais la ligne directrice...
Quand on regarde les autres sports, là, que ce soit des sports individuels, même le tennis, ça, quand on voit que c'est la norme où l'athlète pète le sacoche auprès des arbitres, et c'est les arbitres qui sont obligés d'être calmes puis d'encaisser, c'est sûr qu'on est impressionné quand on voit ça.
Puis ils encaissent contre des gars qui font 1,95, 120 kilos, ils font le 100 mètres en 11 secondes et demie.
Donc, mais en tant qu'amateur, tu sais, que consommateur de ce sport-là, le voir sortir pour le prochain match parce qu'il a dit le F-word à un arbitre, ça vient me...
Nilton.
Mais moi-même, tu m'as quasiment convaincu du contraire.
Nilton, t'es dans le réglement de travail que tu te dis, on passe au prochain point de l'agenda, mais on va skipper le point de Jean-Jacques. Puis Jean-Jacques te dit, F you, tu fais quoi? C'est genre, c'est la même chose là. C'est genre quoi, mon point n'est pas valide, je veux parler de mon projet. Non, F you, Nilton. C'est pas normal qu'il y ait des F-bombs entre des adultes dans un contexte professionnel. Mais je pense que c'est donnant. L'arbitre doit nécessaire. Je pense que l'arbitre doit engrainer dans ses joueurs de utiliser des F-bombs. Puis les joueurs aussi le font parce que c'est des malpolis. Ils ont aucun respect pour les autres. Ils sont juste des bébés là qui sont très très gâtés. Cette relation, il faut que ça commence dès les jeunes là. Comme les plongeons, tout ça. Si tu veux arrêter ça, c'est les jeunes. C'est tout de suite. En tout cas.
Cela dit, pour le match le plus important de la semaine prochaine,
c'est DC United.
United, parce que la MLS, elle suit l'histoire de Wayne Rooney, de sa remontée. Par la bande, on se retrouve pris dans cette histoire-là de la semaine, parce que Montréal, c'est le club à abattre. Mais
club à abattre. Bien joué.
Pour la MLS, oui. Là, pour cette histoire-là, puis je ne suis pas en train de dire que la MLS veut que DC gagne. Là.
Moi, je pense que oui.
Arrêtez avec ces complots, là. On s'en fout. Là. C'est pas vraiment important. Ce qui est important, c'est l'histoire de la saison. Qu'ils fassent les séries, tant mieux. Si DC échoue à la fin puis que c'est Montréal qui passe, ça n'a aucune implication pour la MLS. Ça ne change rien. Là.
Non, c'est vrai. Mais c'est pas un match qui passe en prime time dans le sens. C'est pas juste sur ESPN+ aux États-Unis, je pense. Et la télé locale. C'est pas le gros match là de ESPN ou de Fox. Donc,
mais ça va être très très intéressant comme match là. J'ai hâte de voir comment l'impact va contrôler cette vague là du duo Acosta Rooney. Ça risque d'être une belle bataille. Là. Justement, il y a quelqu'un qui pose cette question là la semaine prochaine. Oui, c'est Jeff qui nous pose la question. Contre Rooney, est-ce qu'on est mis avec Raiola ou Camacho? Moi, je vais répondre avec une réponse, là, mais...
Ouais, vas-y.
Rémi Garde n'oserait jamais habiller Raiola à la place de Camacho si tous les deux sont en santé.
Oui, je pense pas, non. La seule... peut-être jouer avec un joueur de moins dans le champ, puis mettre Sania comme central, puis mettre Raiola à gauche, ou même pas, non. Raiola, Lovitz à gauche avec Sania, Fanny, Camacho, mais ça, il va pas changer ça. Il va rester avec son 4-3-3. Il ne va pas le changer. Mais il faut qu'il se rappelle ce que DC United a fait à Montréal, au Stade Saputo. Donc, ils peuvent faire la même chose à la maison. Mais en même temps, il a vu que son équipe est capable de dominer à l'extérieur, notamment contre Philadelphie. Donc, quoique Philly, en termes d'organisation, ce n'est pas DC. DC est supérieur en termes de jeu. Vraiment, il faut que Fanny soit parfait, puis il faut que Bush soit parfait. Que Camacho fasse 0 ou pas, il se peut que ça arrive. Mais il faut que ce soit parfait. Puis, c'est un match difficile, mais honnêtement, si l'Impact perd, on dit quoi?
C'est normal.
OK. Mais est-ce que c'est...
Toi et moi, on dit que c'est normal de perdre.
Est-ce que c'est une catastrophe? Ou se dit les clubs, on a encore du temps? C'est correct?
Ben, probablement que le club va trouver ça moins catastrophique que ses partisans et les médias.
Parce qu'en même temps, New England joue contre Toronto. Donc, New England gagne, DC gagne. C'est-à-dire que l'Impact a juste un point d'avance sur les deux. Deux points d'avance sur les deux. S'ils perdent. S'ils perdent contre DC et New England gagne, l'Impact aura juste un point d'avance. Donc, on va sortir la pression, c'est normal. Ce qui arrive, on s'attend. Là, parce que quand tu vas taper DC, Columbus, Toronto et New England, tu sais que...
Mais est-ce qu'il faut que les gens soient conscients? Je sais qu'il y a une vague de positivisme. Là. Puis on est reconnu pour être les rabat-joie, mais tu sais, non, on n'est pas tant que ça rabat-joie, peut-être un peu, mais les playoffs, là, ça sera pas facile. C'est vraiment, vraiment du 50-50.
Oui, mais c'est court et intense. Donc tu te dis, ben.
C'est le fun, là, ce qui se passe comme fin de saison, mais il faut pas. T'sais, j'essaie de prévoir un peu le drame collectif là, si jamais on fait pas les playoffs. Là, c'est pas si anormal que ça.
Exactement, Nilton. Mais l'Impact fait partie de ce peloton de clubs qui n'ont rien à foutre de ce qu'ils font durant la saison en termes de jeu, parce qu'ils savent qu'ils ne vont rien faire. Philadelphie, New England, Chicago, Orlando. On est d'accord que bien jouer, ça ne les intéresse pas. Sinon, ils l'auraient fait depuis le début. Même si Orlando, c'est pas normal ce qui t'arrive là, avec les joueurs qu'ils ont devant, mais ça, c'est autre chose. Donc, ils se disent, ben, on est là, on a survécu, comme la MLS nous a prescrit, parce que la MLS te permet d'être médiocre durant une saison. La MLS te parle comme les clubs de Ligue 1 ou de Serie A qui sont au milieu du peloton, qui n'ont aucune envie d'être dans l'Europa League parce qu'ils n'ont pas le budget pour jouer plus. On est 11e ou 12e. On reste en Serie A pendant 15 ans, on est content. La MLS, c'est la même chose. On est dans la course aux séries, on les fait, on est content, on gagne 2 matchs. On a un beau palmarès, finaliste de la division Est. Parfait, t'es content. Bah, c'est bonus. Mais ils savent aussi que t'as l'effet Houston Dynamo des années 2000 où tu peux arriver
en. Ouais, mais ça, c'est moins en moins vrai. Là.
Non, mais t'as aussi.
Et souvent, on utilise l'exemple plus récent de Seattle en disant l'important, c'est de finir en force, blablabla. Bla, bla, mais la vraie histoire, c'est que Seattle l'a recruté. Seattle a connu une fin de saison, la tempête parfaite aussi en fin de saison.
Mais il jouait mal.
Espérer gagner 80% de nos matchs à partir de l'été là, pour faire les playoffs, puis après espérer les matchs magiques en playoffs, c'est pas ça. Là. C'est pas ça le foot.
C'est pas une tactique, mais beaucoup de ces clubs le savent. Ils se disent, en jouant, on est où? Bon, on va serrer les coudes, puis on va se faire
une course. Et s'il y a des clubs qui utilisent ça comme stratégie de recrutement, j'espère qu'ils se plantent à chaque fois.
Ben, en voyant le recrutement de l'Impact, l'Impact fait du court terme. Moi, t'as Piet, c'est long terme. Camacho, c'est long terme. Tider, c'est pas du long terme, parce qu'il va pas de là trop longtemps.
Arrête.
Il est là pour 2 ans au maximum.
Je pense que non.
Moi. Regarde. Il est encore
jeune. Tu penses que Tider, si. Je verrais très mal un club offrir plus d'argent ailleurs pour Tider. Puis pour l'équivalent du salaire, il obtient, au niveau international, il obtient la même chose que s'il jouait ailleurs. Donc, aussi bien rester à Montréal.
Non, c'est vrai, Nilton, mais j'attends que la saison finisse pour voir ce qui va se passer, puis voir si j'entends des choses. Mais c'est juste, en ce moment, on assume qu'elle est là pour 2 ans. Mais moi, je pense que si sa famille a bien vivre ici, puis lui, il trouve que c'est bien pour sa famille, il va rester 3-4 ans. Et puis je pense que tant qu'il joue bien, la sélection nationale va le considérer. Mais ça, il n'y a aucun problème. Mais juste pour dire, il y a des bonnes choses long terme du côté de l'Impact, mais dans les besoins flagrants pour être compétitif, ils ne l'ont jamais fait. Donc Quincy, court terme. Mancuso, erreur. Azira, court terme. Fanny, court terme. Sania, court terme. Raetala, court terme. Ça en fait du court terme. Donc c'est. Mais il y a des bonnes choses. Silva, Piatti, ils ont re-signé. Donc, l'Impact était, disons qu'on c'est une année de transition. L'effet garde, c'est transitoire. C'est parfait. Mais juste qu'il y a trop de clubs qui sont juste dans le mou.
Ouais, moi, ce terme-là d'année transition, ce terme de transition est comme arrivé par défaut parce qu'ils ont échoué leur plan A, B, C.
Oui, non, je suis d'accord.
Parce que c'est pas rien qu'ils étaient en train de se dire que ça allait être une année de transition. Ils ont essayé de recruter beaucoup en janvier. Ils ont vu que c'était difficile en se cachant derrière l'excuse de « on est décalé du mercato d'été, si on va régler tout ça au mercato d'été ». Arrivé l'été, ils se sont rendus compte que le marché des aubaines, ça ne fonctionne pas. Hein. Tu ne peux pas obtenir…
Le village des valeurs.
Non, c'est ça. C'est le village des valeurs, tu as les jeans d'il y a 5 ans. Tu n'as pas les jeans de troués d'Alec. Tu as les Levi's. Rendu là, ils se disent, année de transition, on s'en rend compte de nous-mêmes vu que les playoffs semblaient très, très loin. T'sais. Là, on se retrouve un an plus tard à la case départ où il faut aller chercher des joueurs en fin de contrat qui voudraient bien venir en MLS. Ça va être compliqué. Là. C'est pas acquis qu'on va se trouver finalement ce qui manque à l'Impact de Montréal pour 2019.
Oui, mais...
On pourrait être déçu.
Non, mais c'est clair, c'est clair. Mais bon,
C'est... Il y a quelqu'un qui nous demande pour l'année prochaine. Je vais essayer de retrouver la question. Oui,
déjà,
c'est Max
déjà l'année prochaine.
Ouais. Là, vu les performances récentes d'Azira, est-ce qu'on vise plus un milieu à trois avec les éléments actuels ou on cherche toujours un 10 ou tout simplement un autre 8 pour venir faire une solution de rotation avec Piet, Tider, etc. Ma réponse est claire et nette, puis elle ne changera jamais. Il faut un milieu offensif parce que sans ça, on l'a vu hier, on l'a vu samedi. Quand on se retrouve avec une situation où on cherche un but et qu'on se fie uniquement sur des contre-attaques sur Piatti, ça devient un problème.
Tout à fait.
Hier, ce qu'il aurait fallu avoir sur le banc, c'est des éléments créatifs. Le seul qu'on avait comme élément par définition créatif, c'était Vargas. Malgré tout, il n'a pas été utilisé.
Incroyable, hein?
C'était un changement évident.
Quel joueur?
Mais il est tellement Rémi Garde est tellement convaincu qu'il ne sert à rien sur un terrain qu'il a décidé de garder ses trois éléments défensifs sur le terrain. Il se dit au moins eux, il ne va pas me coûter un but. Ils vont travailler fort. Ça ne sera pas facile. On va espérer le coup de génie de Piatti, l'efficacité d'un Silva ou une présence tardive de Tider pour récupérer un ballon. Un réveil miraculeux de Matteo. On l'a vu, là. On a vu le gros problème. C'est pas pour rien que Rémi Garde a fait un changement, dépassé la 80e, exact?
Nilton, combien de changements a fait Rémi Garde durant ce match-là?
Non, 74e. Comment?
Question quiz à nos auditeurs. Combien de changements Rémi Garde a fait durant ce match-là contre New York City? OK? Répondez entre vous, puis la réponse est un changement.
Yeah, c'est
un
vrai.
Changement. À la maison, un partout, un changement. Mais ni Duval, ni Raitala, ni Kroliki, ni Chaumé, ni Vargas étaient intéressants pour le coach.
Mais t'es à la place de Rémi Garde, là.
Oui, mais Nilton.
Est-ce que tu fais rentrer quelqu'un d'autre?
Mais Nilton, contre Columbus, il fallait rentrer Donadel pour gagner en mois de mars. Il fallait qu'il rentre Donadel, ça aurait changé la donne. Il aurait fait une faute. Jamais Zernes aurait marqué contre Bush. Mais non, Nilton, il fallait changer. Il fallait changer pour changer la dynamique. Tu sais, le fil du cosmos qui passe à travers un stade de foot. Tu sais, si tu ramènes Donadel, ça change le timeline. Puis soudainement, l'Impact ne perd pas ce match-là. Tu connais pas ce théorème? Non, mais c'est incroyable. C'est un nouveau concept. J'ai adoré. Non, mais est-ce qu'on peut se dire que Vargas, c'est officiellement une fraude? Voyons comment le club le considère même pas pour le faire rentrer.
T'as-tu besoin de me convaincre moi ou t'as besoin de le rappeler aux gens?
Non, mais je parle dans un microphone, donc je parle à d'autres gens. Est-ce que vous êtes d'accord qu'à part que Vargas rentrait, marquait un coup franc?
Oui, mais il est jeune.
Non, c'est un projet, là. C'est un futur numéro 10. Mais... Pour aider tout de suite, pour aider tout de suite, Vargas, c'est une catastrophe cette année, puis c'est dommage. On voyait des belles choses en lui, mais il a tellement de lacunes que je sais plus ce qu'il vaut. Donc, moi, je dis, on se voit l'année prochaine. Si le club te garde.
Mais toi, tu veux le faire revenir l'année prochaine.
Parce que mais... je crois à la. Comment dire la, le pardon, puis les secondes chances, puis la rédemption. Voilà. Plus simple que ça. Le rachat, tu sais, toi t'es chrétien, tu connais le concept des rédemptions. C'est le rachat, le sacrifice du Christ, Nilton, t'en veux pas de ça, il s'est sacrifié pour vous.
Mais qu'est-ce que arrête, là, va pas là.
Ouais, mais c'est ça la définition de la rédemption, ça vient du sacrifice du Christ pour laver vos péchés. En tout cas, toi, l'église, t'y vas plus. moi non plus, je suis pas chrétien, mais voilà, c'est.
Il faudrait un sacré miracle là, pour que Vargas arrive avec 20 livres en moins en shape puis avec de la volonté en plus là. Ça fait beaucoup.
Mais on va bien rire si Mancuso Vargas rentre en même temps dans un match. Ouf.
C'est comme peut-être au dernier match.
Defense maker, Legion of Doom, puis boom. Deux buts, puis l'Impact.
Legion of Doom. Là, tu viens me chercher là.
Ah oui.
Oh God.
Ah oui, si vous voulez chercher Nilton, c'est faire des références WWF. Ça, c'est pas WWE, des références WWF. Ouais, là,
exact.
Nilton, il va
plus. Plus c'est vieux, plus c'est drôle.
Exactement. Avec des confettis, puis des...
Ouais.
Puis
si vous êtes capable de me répondre seulement en gif de Macho Man.
Ça marcherait.
Respect.
Bon, ben, je pense une dernière question. Une dernière question ou on arrête? Parce que là, c'est de pire en pire.
Le prochain match risque d'être le fun. J'ai vraiment, vraiment, vraiment hâte de voir. S'il fallait qu'on mange une volée à DC, ça pourrait nous faire mal.
Regarde, manger une volée à DC n'est pas quelque chose d'impossible. Mais c'est juste que à l'extérieur, l'impact, à part contre Toronto où tout le monde a paniqué comme si c'était le Real Madrid, l'impact...
Non, mais on a perdu contre Jovinko, point.
Point. À part peut-être contre Toronto...
Jovinko, depuis ce match-là, n'a pas fait grand-chose non plus.
Exactement. T'sais, il avait quoi? Il avait les Red Bulls au début de saison, c'était une catastrophe. Mais à l'extérieur, l'impact, il est assez entreprenant. Puis avec Silva et Piatti, j'ai beaucoup de confiance. Silva, c'est un joueur qui fait vraiment la différence physiquement. Puis ouais. Je pense qu'il va vraiment faire mal à DC. C'est DC qui commence à jouer à la baballe puis jouer haut.
Mais DC, là, défensivement, il y a des trous aussi.
Oh oui, non, mais d'ici, là, je ne peux pas te nommer un défenseur à part quoi, O'Para. Parce que c'est O'Para qui joue là-bas, je ne m'en rappelle même pas. Je ne peux même pas nommer la défense centrale. Mais honnêtement, là, c'est... Ouais, parce que... Pardon. Défensivement, déjà, DC, ils ont quoi, 2 victoires, 2 matchs nuls et 2 défaites aux 6 derniers matchs. Mais honnêtement, c'est... je dirais pas de différence, ils sont mauvais, mais je suis pas fan. Au Paré, j'aime bien. Burnbaum, je trouve qu'il est surcoté. Et c'est juste que c'est offensivement où ils vont vers l'avant. C'est juste que, est-ce que tu peux museler Canoes et Moreno, si Moreno joue, pour ensuite se focus sur Acosta? Parce qu'Acosta, il va faire ce qu'il veut, là. C'est comme Morales. Mais Morales a une équipe beaucoup plus forte. Donc Morales il jouait beaucoup plus bas. Donc il montait beaucoup plus haut, quasiment un box-to-box.
Morales, il est sorti de les pattes de Piette, puis il était devant sa défensive. Là.
Exactement, exactement. Et c'est pourquoi, puis l'effet Rooney, le gars surcoté, qui évidemment pas du tout. Tu sais, ça fait une grosse différence. Avoir un attaquant comme Rooney, ça fait la différence, comme il est altruiste.
Mais tu sais, on va revoir les mêmes matchs. L'Impact de Montréal, qu'il soit à domicile ou à l'étranger, il joue exactement le même match. Le match de samedi, là, on peut pas deviner que l'Impact de Montréal joue au Stade Saputo. Il a joué le même match qu'à Philadelphie.
Non, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord.
Donc, jouer à l'étranger, maintenant, en fin de saison, le fait de jouer à l'étranger, c'est pas nécessairement un gros désavantage pour le club, là.
Non, ça change rien du tout. Puis
ça change plus grand-chose, là. Il faut être efficace dans les contre-attaques. Puis il faut que Piatti, même quand il sent que ça va se passer par ses pieds, il faut qu'il redevienne collectif comme dans les 50-60 premières minutes d'un match. Dès qu'on dépasse les 60 minutes, puis qu'on voit que c'est la situation clé, il faut que ça passe par ses pieds. Il prend les décisions égoïstes parce qu'il se dit « c'est moi le leader ». Technique de ce club-là.
Ouais.
Je dois sortir le club du trouble. C'est là que ça se passe moins bien. Là.
Non, je te rejoins.
Malheureusement, autour de lui, il n'y a rien d'autre. Là. Oui, Silva est là pour le compléter, mais c'est pas des mauvaises décisions des fois qu'il prend. Là. Il s'essaye, ça peut devenir des coups de génie. Quand il va réussir, on va être en admiration face à ses gestes. Mais l'avantage, c'est qu'à DC, si c'est 1-1, il n'y aura pas ce moment-là de stress puis de
d'obligation de marquer. Ils vont se dire,
exactement,
on prend le point et c'est DC qui va devoir ouvrir. Ouais.
Exact. Il faut garder DC à distance. Le match nul, c'est un objectif clair pour ce match-là. Et s'il est calme dans sa tête, s'il est serein, à la 70e minute, il ne va pas essayer de dribbler ses 3 défenseurs. Il va utiliser le fait qu'il est entouré de défenseurs pour la donner à quelqu'un. Là.
Exactement. Un peu comme Philly, c'est désespéré de gagner.
Moi, je suis tellement surpris par ce qui se passe. J'ai pensé vraiment mentalement affecté après la défaite de 4-1. Ils vont sortir 2 gros matchs.
Contre Seattle et Sporting Kansas City.
Ils se retrouvent présentement à 1 point de Columbus.
Non, ils sont Philadelphie, ils sont en mode on fait les séries puis on gagne la US Open Cup.
Ça se passe pas comme ça.
Ouais, ce serait dommage pour eux. Mais personnellement, voilà, quand DC United, si DC est impatient dès le début, peut marquer 3 buts en 5 minutes, ça va arranger l'impact. Quoique se prendre un abordage dès le début, ça pourrait les emmerder. Mais honnêtement, si DC fait le all-in dès le début, ça arrange l'impact parce qu'ils vont pouvoir contre-attaquer comme ils veulent. Puis en amont, Silva, il a besoin de personne. Silva, il a besoin d'un ballon et juste courir. Puis il va aller marquer tout seul, même s'il n'est pas très efficace, là, honnêtement. Mais voilà, DC, c'est de la qualité, mais ils ne sont pas aussi forts que New York City FC. en termes de, comment dire, de fond de jeu, entre guillemets. Mais bon, j'ai dit ça, mais à Montréal, j'ai l'impression que c'est le Barça qui était venu, jouer. Là, je dis, waouh, ça bouge vite le ballon, là, ça bouge très, très vite. Donc, c'est plus pour ça, mais l'impact à l'extérieur, ça ne dérange pas, c'est leur pain et beurre, donc tant mieux. Tant mieux, ça les arrange, ils ont quoi, 2 matchs sur 4 à l'extérieur. Donc, tant mieux, ils peuvent jouer la victime, puis ils peuvent mettre les prédictions des gars malaises sur leur vestiaire tous les jours et les regarder, puis. Et dire qu'ils veulent pas que ce soit dans les séries, c'est parfait. Si ça les motive, tant mieux. Mais évidemment, il y a 4 clubs pour 3 postes, 3 places pour les séries. Même 5 clubs, si on inclut Columbus et Philly. Donc, bonne chance à tout le monde, bonne chance. Sur ce, Newton, on conclut cette émission de haut niveau. Je suis obligé de le dire.
Ça passe par soi-même. La confiance en soi. Il faut s'aimer en premier. Après, on attend que les autres nous aiment.
Exactement. Il faut répéter. Donc, merci tout le monde d'avoir écouté sur la plateforme CanFootballClub+, sur votre plateforme de balle diffusion préférée. Pour nous supporter, patreon.com/CanFootballClub. Supporter notre sponsor, La Forge du Malte, excellent microbrasserie basée à Trois-Rivières. Donc, La Forge du Malte sur Facebook et Twitter. Et Newton, sur ce, bonne soirée. Puis à la prochaine.
Ciao, bonne semaine. Là.
Ciao tout le monde.
MLS, Ligue des champions, Euro, Mondial. On en parle tout le temps. Ben des fois, on parle de cuisine, mais pas longtemps. Can Football Club. C'est la référence soccer à Montréal. Tout simplement, les meilleurs. C'est le Can Football Club. La poutine du soccer.